France Musique. Musique Matin. Saskia Deville. France Musique.
Samedi 7 mars, soyez les bienvenus sur France Musique. Laurent Lefrançois à la réalisation, José Bernays et Emmanuel Rose à la technique. Soyez les bienvenus dans cette matinale que nous consacrons aux pratiques amateurs, au chant choral, à la pédagogie et au plaisir de la musique. Voici le menu du jour. À 8h, Christophe Chasson nous parlera de sa passion pour le compositeur américain Stephen Sondheim. À 8h20, notre reportage. Nous irons nous balader dans les coulisses de la toute première répétition de Viva l'Orchestra, cet orchestre qui réunit chaque année ici à la Maison de la Radio amateurs et musiciens de l'Orchestre National de France. Dans sa chronique Battement de cœur, Marc-Olivier Dupin nous présentera un chœur amateur de trentenaire, le chœur 43. Notre invité sera Sébastien Rivas, directeur artistique de la Biennale des Musiques Exploratoires de Lyon. Enfin, Roselyne Bachelot évoquera l'opéra Einstein on the Beach de Philippe Glass qui sera diffusé ce soir à 20h sur nos ondes. Très très bon réveil à notre écoute.
Thank you.
Et pour démarrer avec du plaisir, le troisième mouvement de la sonate, la tempête, 17e sonate de Beethoven, interprétée ici par le pianiste Javier Perianes. 7h38 déjà, un mot sur le Centre de musique de chambre de Paris qui présente en ce mois de mars, Salle Courtauld, un nouveau concert-spectacle, une mise en espace d'une œuvre majeure du répertoire interprétée par cœur par les jeunes musiciens de la troupe. Le tout accompagné d'une création vidéo, un challenge dont nous avons déjà parlé dans cette matinale bien sûr. Et bien pour cette nouvelle série, les musiciens du Centre de musique de chambre se tournent vers la sublime métamorphose de Richard Strauss. Le spectacle est donné jusqu'au 21 mars, chaque jeudi, vendredi et samedi, c'est à 21h. Et puis en première partie de soirée à 19h, vous pourrez entendre deux trios du compositeur et pianiste Jérôme Ducrot, interprété notamment par le violoncelliste Bruno Philippe. Rendez-vous donc au Centre de musique de chambre de Paris. La soprano Diana Damrau, qui après un disque de mélodie avec orchestre en 2011, retrouve Richard Strauss avec ce nouvel enregistrement, les quatre derniers leaders dont nous écoutions Frühling. Diana Damrau, accompagnée par l'Orchestre symphonique de la Radio Bavaroise, leader enregistré en janvier 2019 lors du dernier concert dirigé par Marie-Cian Sons. C'était à New York, quelques mois avant sa mort, sorte d'hommage, d'album hommage au maestro, qui paraît chez Erato.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Et chaque semaine, je sélectionne pour vous un livre-disque pour faire découvrir la musique aux enfants. Aujourd'hui, eh bien, j'ai choisi un classique de la littérature, Le fantôme de l'opéra, d'après l'œuvre de Gaston Leroux, l'histoire de ce fantôme étrange, de cette cantatrice disparue, d'un lac souterrain caché sous l'opéra Garnier. Une histoire dessinée par Christelle Espier et réécrite par Christine Beagle. Le livre s'adresse aux enfants dès l'âge de 6 ans. Il paraît aux éditions Gauthier-Langros. Et en fin d'ouvrage, il y a même une sorte de petite gazette, un cahier documentaire qui nous permet de nous plonger dans les coulisses de ce mythe et de découvrir les événements de l'histoire qui sont bel et bien arrivés. Je vous propose ce matin eh bien, de découvrir le tout début de cette histoire racontée par la comédienne Cécile de France.
Depuis des mois, il terrorise tout le monde. Machiniste, petit rat, chanteur, musicien, chef d'orchestre et directeur, personne n'y échappe. Même les murs de l'opéra tremblent à son passage. Il est là. On le sent, on l'entend, mais on ne le voit pas. On l'imagine, et c'est pire. Le fantôme. Il est capable de tout. Hier, César, le cheval blanc, disparaissait mystérieusement des écuries. Ce soir, c'est le tour de la Carlotta. 5 minutes avant qu'elle n'entre sur scène pour chanter le rôle de Marguerite dans l'opéra Faust, la célèbre cantatrice est victime d'un courant d'air glacial.
Oui. Mais je ne comprends pas, qu'est-ce qui m'arrive ?
Elle n'a plus de voix. Qui donc va remplacer la diva ?
Vous entendez ? La Carlotta ne peut plus chanter. Mais c'est une catastrophe ! Qu'allons-nous faire ?
Tandis que le directeur, affolé, s'arrache les cheveux dans les coulisses, le diable de Faust entonne son célèbre refrain sur scène. Et Satan conduit le bal. La soirée s'annonce diabolique.
Et pour fêter les familles dont le roi ses peuples confondus aux brisombres des écus dans ce numéro de pôle autour de son piédestal autour de son piédestal et Satan conduit le mal conduit le mal et Satan conduit le mal conduit le mal.
Le fantôme de l'opéra, d'après l'œuvre de Gaston Leroux, fantôme de l'opéra revisité par Christelle Espier et Christine Beagle, un livre-disque qui s'adresse donc aux enfants dès l'âge de 6 ans et qui paraît aux éditions Gauthier-Langros. Et nous avons appris hier soir la disparition du pianiste de jazz américain McCoy Tyner à l'âge de 81 ans. Il comptait parmi les pianistes de jazz les plus respectés de l'histoire. Il avait notamment été membre du quartet de John Coltrane. Pour moi, la vie et la musique sont une seule et même chose. Je joue ce que je vis, c'est ce que disait l'artiste. Nous avons perdu un titan quant à lui. gratuité l'emblématique label de jazz Blue Note Records. France Musique vous propose de réécouter en ligne le concert que McCoy Tyner avait donné en septembre 2016 à la Philharmonie de Paris dans le cadre du festival Jazz à la Villette. Rendez-vous sur le site francemusique.fr et puis évidemment Yvan Amar rendra hommage à cette immense pianiste ce soir sur France Musique entre 19h et 20h dans le Jazz Club. Lazy Bird de John Coltrane, ici avec McCoy Tyner au piano, accompagné par Steve Davis, Elvis Jones, McCoy Tyner, dont nous avons donc appris la disparition hier soir à l'âge de 81 ans. Rendez-vous avec Yvan Amar dès 19h sur France Musique pour un hommage à ce grand musicien dans le Jazz Club. Ce matin, je vous offre le dernier disque que le violoncelliste Victor-Julien Laferrière a enregistré avec le pianiste Jonas Vito. Rachmaninov, Shostakovich, Denisov sont au programme. L'album est paru il y a quelques semaines chez Alpha. Et j'en profite pour vous annoncer ce concert. Victor-Julien Laferrière qui jouera en duo le 16 mars prochain avec au piano Maxime Emelianichev cette fois. Et ce, à l'occasion de la deuxième édition des musicales franco-russes qui commenceront le 10 mars à Toulouse et dont France Musique est partenaire. Pour tenter votre chance et remporter le disque du violoncelliste, rendez-vous sur francemusique.fr sur la page de l'émission Musique Matin. Vous nous envoyez comme d'habitude vos coordonnées et puis la bonne réponse à la question qui va suivre et vous recevrez peut-être ce disque dans votre boîte aux lettres. Ce matin, je vous propose de deviner le compositeur de la sonate que vous entendez déjà un petit peu sous ma voix. Trois propositions, Sergueï Rachmaninov, Christophe Chassol ou Sandra Kim. Votre réponse sur francemusique.fr. Bonne chance à vous.
Thank you.
Mais qui est le compositeur de cette sonate pour violoncelle et piano en sol mineur, opus 19, le quatrième mouvement ici que nous écoutions avec Victor-Julien Laferrière et Jonas Vito, un extrait de ce disque qui est à remporter ce matin, qui est paru chez Alpha. Votre participation avec le nom du compositeur, ça se passe sur francemusique.fr.
Carrefour de l'Odéon, le dimanche, de 14h à 16h, France Musique.
Salutations musicales. Eh oui, le Carrefour de l'Odéon devient hebdomadaire et dominical. Avec une nouvelle rubrique pour conclure, cordes sensibles, cordes pincées, frappées, frottées et plus si affinités.
Carrefour de l'Odéon, le dimanche, de 14h à 16h, à retrouver sur France Musique et francemusique.fr.
Le jeudi 12 mars à 20h à l'auditorium de Radio France, Martina Batic entraîne le chœur de Radio France dans les paysages animés de la musique tchèque. Dvorak, Martinou et Jana Tchèque jouent les guides. L'orgue et la harpe apportent leurs couleurs. En seconde partie, Szymanowski nous fait glisser vers la Pologne. Une invitation au voyage. Entrez au cœur du concert. Réservation maisondelaradio.fr.
France Musique.
France Musique.
Vous allez l'adorer.
Vous allez l'adorer.
Excellent début de journal, écoute de France Musique, il est 8h.
Chère auditrice, chère auditeur. Chère auditrice, chère auditeur.
Bonjour Christophe Jassol.
Bonjour Saskia Deville.
Grand plaisir de vous retrouver pour ce mois de mars, pour cette nouvelle série de chroniques un petit peu particulière ce mois-ci, puisque c'est moi qui serai votre élève.
Exactement. On revient donc à nos premières amours, les chroniques, juste pour faire partager de la musique et pour que les gens se plongent dans la discographie des personnes dont on parle. On va parler aujourd'hui d'ailleurs de qui ?
D'un librettiste et compositeur américain. Oui. Il va fêter dans quelques jours ses 90 ans.
Exactement. Il s'appelle Stephen Sondheim. Et bien on va écouter tout de suite Into the Woods.
Once upon a time.
I wish.
In a far off kingdom.
More than anything,
lived a fair maiden, a sad young lad,
I wish,
and a childless baker.
More than life,
I wish,
with his
more
wife.
More than anything,
more than the moon,
I wish.
The
king
is in the festival. Moi, je suis un fan de West Side Story, comme vous le savez, Saskia. Le Third Stream, le troisième courant, ce qui mélange la musique classique et le jazz, et West Side Story est l'exemple parfait. Et alors, j'ai mis beaucoup de temps à connaître Stephen Sondheim. Je connais sa musique en tant que compositeur que depuis très peu de temps, alors que je connais West Side Story depuis toujours. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Maintenant, je me suis plongé dans Into the Woods.
Alors, on va peut-être préciser quand même Stephen Sondheim qui a été le librettiste.
Oui, le librettiste. Il a écrit les paroles de West Side Story.
De West Side Story, la comédie musicale de Bernstein. Donc sa musique, ça, c'est une découverte plus récente.
Ouais. Il était assez frustré d'ailleurs de pas écrire la musique de West Side Story. Mais on lui avait promis qu'il bosserait avec des gens très bien comme Jerome Robbins et, voilà. Et Leonard Bernstein.
Ça a été fait.
Donc, c'est ce qu'on entend là en ce moment, c'est Into the Woods, dans les bois, qui date donc de 1987. Qui a été adapté en film par Disney, alors je vous conseille pas d'aller regarder le film, hein, restez sur la comédie musicale. C'est une musique que je trouve fantastique. Elle est pour moi le prolongement du Third Stream, donc de ce courant qui mêle musique classique et jazz, mais qui le pousse encore plus loin. C'est du parler, chanter, du théâtre musical, mais d'une sophistication dingue. Into the Woods mélange le petit chaperon rouge, Cendrillon et Jack et le haricot magique. Mais avec beaucoup d'humour, quoi, avec de l'ironie, les contes sont détournés. Et alors moi, ce qui me ravit, c'est l'écriture, quoi, la musique, vraiment. Alors, écoutez, par exemple, il utilise beaucoup d'accords suscades, des accords ouverts, comme cela. Voilà, moi je trouve que c'est une certaine modernité qui vient du jazz vraiment et qui est appliquée là avec des orchestrations classiques mais de haute voltige. Et tous les morceaux sont géniaux, c'est tous les numéros, tous les actes sont superbes. Sondheim, c'est vraiment les polyphonies vocales hyper complexes, mais c'est quelqu'un qui reste très tonal. Il va pas dans la tonalité. Il avait comme professeur Milton Babbitt à qui il a demandé de lui enseigner la musique atonale et celui-ci il a refusé puisqu'il disait non, t'as encore beaucoup de choses à creuser dans la musique tonale. Et c'est vrai, quand on écoute ces compositions, c'est un langage tellement sophistiqué, un peu comme Stravinsky, qui pousse l'enveloppe de la musique tonale jusque dans ses retranchements, mais qui ne va pas vers la tonalité. la tonalité, pardon. Donc oui, bon, alors Stephen Sondheim, lui, c'est Bach, foot Bach et de Stravinsky, en gros, quoi. Mais on sent qu'il a vraiment digéré le jazz et que l'expérience West Side Story lui a appris beaucoup. Il a eu comme père spirituel Oscar Hammerstein, qui voilà, qu'on connaît tous pour The Sound of Music, par exemple. Donc là, on écoutait Company. Dans Company, qui date de 87, il y a un passage qui, pour moi, est le rap blanc symphonique. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui s'essaye au rap, mais qui vient de la musique classique et de la musique de la comédie musicale. On va écouter les sorcières dans Into the Woods et leur débit.
Beans, beans, the special beans. Let him know I didn't know he stole my beans. I was watching him crawl back over the wall. Then bang, crash, the lightning flash. And well, that's another story, never mind. Anyway, that's the day they came.
Du rap blanc symphonique.
Ouais, voilà, ouais. Mais ça swing, hein. Ça swing.
Ouais, ouais, non, c'est pas mal.
Et les orchestrations sont quand même assez sophistiquées, quoi, derrière. Donc, bon, voilà, Into the Woods, je vous le conseille complètement. Il y a une comédie musicale qui s'appelle Company, qui parle du mariage. Celle-ci, elle parle du mariage et c'est très, très 70s, limite soul. On va écouter un numéro qui s'appelle The Little Things You Do Together. C'est-à-dire comment un mariage, comment les mariages fonctionnent. Et la mélodie est tellement accrocheuse. Il a vraiment un sens inné de la mélodie. La mélodie, c'est... On écoute Little Things, The Little Things You Do Together.
It's the little things you share together, swear together, wear together, that make perfect relationships. The concert you enjoy together, neighbors you annoy together, children you destroy together, that keep marriage intact. It's not so hard to be married when two maneuver as one. It's not so hard to be married, and Jesus Christ, is it fun?
Okay.
It's sharing little winks together, drinks together, cakes together, that make marriage a joy. The bargains that you shop together, cigarettes you stop together, clothing that you swap together,
that makes perfect relationships. Là, il y a vraiment beaucoup d'humour là-dedans. Là. Petit chromatisme, comme ça, très ironique. Voilà, bon, je ne sais pas si on a encore un peu de temps, peut-être pour un autre morceau de Company.
Dernier.
Alors, on va prendre, par exemple, Not Getting Married Today. C'est dans Company aussi, qui parle donc du mariage. Et c'est cette fille, je crois que c'est Joanne, qui ne veut pas se marier. Et alors, j'ai jamais entendu un truc aussi dur à chanter. Un peu le vol du bourdon, mais elle explique qu'elle partait tous de la cérémonie. Je ne veux pas me marier. On écoute.
Listen, everybody, look, I don't know what you're waiting for. A wedding, what's a wedding? It's a prehistoric ritual. Everybody promises fidelity forever, which is maybe the most horrifying word I've ever heard, which is followed by a honeymoon where suddenly you realize you sat with a nut and want to kill me, but you should. Thanks a bunch, but I'm not getting married. Go have lunch, because I'm not getting married. You've been grand, but I'm not getting married. Don't just stand there, I'm not getting married. Don't tell Paul, but I'm not getting married today. Go, can't you go? Why is nobody listening? Goodbye, go and cry at another person's wake.
Il faut y aller, hein. Faut être bien réveillé.
Ah, il faut être réveillé. Il y a des super vidéos sur YouTube de original cast dans 1970 qui répète et qui répète, et la fille qui chante ça se trompe, se gourre et elle doit reprendre. Il y a aussi Stephen Sondheim qui explique comment chanter ça à des chanteurs. C'est magnifique. Vous pouvez toujours tout trouver sur YouTube de toute façon. Il y a une dernière comédie musicale. Bon, on n'a pas le temps, mais je vous dis juste le nom. C'est Sunday in the Park with George, qui date de 84. C'est sur comment un artiste doit accepter de faire des mondanités, en gros. Mm. Et voilà, Sunday in the Park with George, Into the Woods et Company.
Trois comédies musicales de Stephen Sondheim à découvrir et à redécouvrir. Merci beaucoup, Christophe.
Mais un plaisir.
Pour ce partage. Et puis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
1, 2, 3.
Tu vois, toi, t'as de la chance de faire de la musique. Pourquoi n'en fais pas ?
Et dans cette émission, nous nous intéressons aussi au chant choral. Ça, ce sera avec Marc-Olivier Dupin à 8h30. Nous nous intéressons aux pratiques amateurs, à la transmission. Et j'en profite pour vous parler ce matin de cette grande soirée que j'aurai le plaisir de présenter sur France Musique. France Musique Academy, ce sera le 12 mars prochain. Ça se passe au Studio 104 à la Maison de la Radio, évidemment. Émission qui sera enregistrée et diffusée ultérieurement sur nos ondes. Une soirée placée sous le signe de la transmission, donc. Des jeunes musiciens, des pratiques amateurs. Sur scène, vous retrouverez des étudiants des conservatoires d'Aubervilliers ou de Paris et de Lyon, les chanteurs amateurs du COGE, chœur des grandes écoles, mais aussi la chapelle harmonique de Valentin Tourné, le guitariste Thibaut Garcia, la mezzo Léa Desandré, des membres de l'Académie Jarouski ou encore Sébastien Dessay à la tête d'un ensemble fondé par Royaumont. Vous serez vous-même invité à donner de la voix grâce au spectacle Back and Breakfast du Centre de musique de Chambre de Paris qui sera présenté par Jérôme Pernaud. Et puis à la présentation de cette soirée, j'aurai le privilège d'être accompagnée par la soprano Sabine Devielle qui a accepté d'être la marraine de cet événement. C'est un événement gratuit, ça se passe donc jeudi prochain, le 12 mars à 20h au studio 104 de la Maison de la Radio. Pour réserver vos places, rendez-vous sur le www.maisondelaradio.fr évidemment. On vous attend très nombreux.
Sorte ingrata,
Veni, veni, me sequere fida, air extrait de Iudita Triumphans d'Antonio Vivaldi, interprété par la mezzo-soprano et Léa Desandré et l'ensemble Jupiter. Léa Desandré qui sera donc à l'affiche de cette grande soirée France Musique Académie à laquelle vous pouvez assister ici à la Maison de la Radio. Ça se passe au Studio 104 le 12 mars à 20h pour réserver vos places maisondelaradio.fr. Et puis si vous souhaitez aller écouter l'ensemble Jupiter en concert, sachez que le 15 avril il sera au Festival Les Beaux Jours de Biarritz, le 18 avril au Festival de Pâques de Deauville et le 3 juin prochain au Festival d'Auvers-sur-Oise.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Et c'est l'heure de notre reportage à 8h16. Bonjour Marie Jiquel.
Bonjour Saskia Deville.
Et dimanche matin dernier, à la Maison de la Radio, il y avait un air de départ en colonie de vacances, une centaine d'inconnus, des sourires un peu tendus et des regards encore endormis. L'auditorium de Radio France accueillait la première répétition du projet Viva l'Orchestra. Des musiciens amateurs de tous les âges et de tous les niveaux se produiront sur scène avec l'Orchestre National de France lors de deux concerts en juin prochain. Marie, vous étiez présente ce dimanche matin.
Et c'est à l'Agora de Radio France que j'ai rencontré une altiste et un clarinettiste, Anne et Nicolas. Nicolas qui au passage a fait tomber mon micro, je le salue ce matin. Ils ont tous les deux candidaté et ça a marché.
J'écoute France Musique très souvent et j'ai entendu les pubs très souvent. Et je me suis dit, ben pourquoi pas moi ? Et me voilà.
Ah oui, il y a des jeunes, des moins jeunes.
Des gens qui font tomber les micros.
Des gens qui font tomber les micros.
Et donc alors, vous attendez à quoi là ?
De l'émotion, quand je rentrerai dans l'auditorium que je connais pas. Entendre, je sens qu'on va produire ensemble. Je pense que cette journée sera une journée d'émotion.
Le dynamique violoniste Marc-Olivier Denat sera leur chef d'orchestre. C'est lui qui accueille tout ce petit monde.
Vous rentrez dans l'auditorium et vous allez poser vos affaires, pas sur scène, rien sur scène, dans les fauteuils de l'auditorium. D'accord ? Allez. Faites-les rangs, je vous ouvre la porte. On va pas tous les jours comme ça. Allez hop. Vous préparez, vous chauffez. Prenez un crayon, une gomme, votre partition, s'il vous plaît. Ça aussi, c'est une règle. Pendant les 6 mois à lesquels on va travailler là, quand vous vous accordez les vents et cordes à la maison, il y a des applications sur les téléphones portables, il y a des accordeurs, c'est 442, d'accord, pour tout le monde.
Marc-Olivier Denat s'est aussi chargé du recrutement de ses amateurs et pour cette 6e édition de Viva l'Orchestra, sur les 400 candidatures reçues, 120 ont été retenues.
Alors on a un fabricant de meubles par exemple, fabricant de meubles pour enfants, on a un luthier, on a des ingénieurs, des profs, quelques techniciens de Radio France. Puis on a une grande majorité cette année de famille. Parce que comme nous avons lié l'orchestre avec un chœur amateur, nous avons aussi fait en sorte que les familles puissent se retrouver les uns dans le chœur et les autres à l'intérieur de l'orchestre.
Alors, parmi les critères de sélection, il y a d'abord le niveau, car les solos seront assurés par des musiciens amateurs. Mais il y a aussi la motivation. Il fallait écrire une lettre pour séduire les recruteurs. Mao, la vingtaine, l'a écrite spontanément un samedi soir.
Alors, j'ai fait de la contrebasse pendant longtemps au conservatoire, et puis j'ai arrêté parce qu'après, toutes les études, ça devenait compliqué. Et ça manquait de reprendre à l'orchestre. Et puis, en rentrant de soirée sur un coup de tête, un petit peu éméché, j'ai écrit mes lettres de motivation, j'ai postulé et puis voilà.
Le dimanche matin, ça pique un peu, non ?
Ça pique un peu, mais écoutez, on a été à l'heure, hein, donc c'est déjà bien. Et puis on est tous là, donc...
Il y a combien de dimanches là, de répétition ?
14 ou 15 ?
Là, vous sacrifiez 15 samedi soir, du coup ?
Bah non, je suis sortie hier, je sacrifie rien du tout. Non, non, on combine tout et puis ça va le faire très bien.
Et demandez le programme, il y aura des extraits de la Traviata de Carmen de Berlioz et ses Troyens. Car cette année, pour la toute première fois, en plus des instrumentistes, il y a aussi un chœur d'amateurs qui est encadré par le chœur de Radio France, Marie.
Et il y aura aussi Offenbach, le galop infernal d'Orphée aux Enfers. Et c'est par cette folle envolée que débute la répétition. Commencer par le French Cancan le dimanche matin, c'était pour les réveiller.
Voilà, exactement. Chacun prend sa place, chacun se dit « Oh là là, mais c'est vrai, ça va vraiment vite, je ne vais pas avoir le temps de réfléchir, il faut que ma partition soit travaillée. » Bien sûr, c'est pour les mettre tout de suite dans l'ambiance.
1, 2, 3, 4.
Un peu de French Cancan ce matin chez vous ce matin. N'oubliez pas l'échauffement, bien évidemment. Merci beaucoup, Marie.
On lève la jambe ici.
Exactement. Certaines sont plus souples que d'autres. Deux concerts uniques dirigés par Jesko Sirven concluront l'aventure de Viva l'Orchestra en fin d'année scolaire. Ça se passera à l'Auditorium de Radio France à Paris. Les dimanches 7 juin à 16h et 21 juin à 16h également. Vous pouvez déjà réserver vos places pour assister à sa représentation sur le site maisondelaradio.fr. Marie, à la semaine prochaine.
On se retrouve la semaine prochaine.
Bonne journée.
Merci.
et toute la fougue de la jeunesse ici pour ce final de la 7e symphonie de Beethoven avec le Simon Bolivar Symphony Orchestra du Venezuela, Gustavo Dudamel à la direction. Il est 8h26. C'est l'heure de retrouver Marc-Olivier Dupin pour sa chronique Battement de cœur. Bonjour Marc-Olivier.
Bonjour Saskia.
Et nous retombons en enfance ce matin.
Et oui, c'est un délice. Avec un cœur amateur, le cœur 43, et un enregistrement, les doudous lyriques. Je crois que vous en avez d'ailleurs parlé dans le livre disque de la semaine il y a peu de temps. On va commencer par un arrangement de Guillaume Barnard de l'un de mes thèmes musicaux préférés au monde, c'est « Allez Croco ».
Éléphant, croco, croco, allez, croco, 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 allez, croco. Un crocodile s'en allant à la guerre disait adieu à ses petits enfants, traînant la queue dans la poussière, il s'en allait combattre les éléphants.
Et Marc-Olivier, que savez-vous de ce cœur?
Alors, c'est un chœur amateur qui a été créé en 2008 par Amélie Baudry et la chef de chœur Myriam Lastel, qui est composé d'une vingtaine de choristes. Alors, ce chœur est très, très ambitieux dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'ils font un vrai travail vocal. Beaucoup d'entre eux font du chant assez sérieusement par ailleurs. Et, ils montent des projets qui sont assez culturels, ce que je trouve assez bien, c'est-à-dire des projets pluridisciplinaires avec des textes d'auteurs, Calvino, Orsena et beaucoup d'autres, et aussi une politique de commande, de pièces originales ou d'arrangements, comme ce qu'on vient d'entendre par Guillaume Bernard, mais aussi des pièces originales de Carole Beffa, Philippe Hersant, etc.
Old MacDonald, old MacDonald had a farm.
E-I-E-I-O.
And on this farm he had some chicks.
E-I-E-I-O.
With a chick chick here
and a chick chick there.
Here a chick,
there a chick,
everywhere a chick chick. Old MacDonald had a farm,
E-I-E-I-O.
Old MacDonald.
Et qu'est-ce qui les a poussés à faire cet enregistrement, ce livre disque, les doudous lyriques?
Alors la raison est absolument formidable, c'est que tous ces trentenaires ont commencé eux-mêmes à faire plein de bébés. Donc je crois qu'ils ont eu tout simplement envie de créer un répertoire pour leurs propres enfants. Et c'est comme ça que toutes ces pièces pour le très jeune public, très très jeune public, sont nées. Et ils ont raison, parce qu'il n'y a pas beaucoup de répertoire pour les tout-petits, pour les très jeunes. Il y en a beaucoup pour l'école primaire, pour les âges et pour les ados, n'en parlons pas, mais pour les tout petits, il n'y en a pas tant que ça. Voilà. Donc, peut-être un jour, on parlera du baby boom des chorales, parce que je crois que c'est un vrai sujet de recherche. Mais ce chœur chante aussi un répertoire très, très profond et très beau et très adulte, si on peut dire, Schumann, le roi de Tulé.
En plus d'acquérir ce livre disque, eh bien aller voir ces chanteurs en concert, ce chœur 43. Sachez que dans 3 jours, le 10 mars, les chanteurs, ce chœur amateur, vous accueillera en l'église Saint-François de Sales à Paris pour un concert, pour une belle soirée. Merci beaucoup Marc-Olivier pour cette chronique. Et puis on va continuer à aller dans la thématique avec une berceuse, non pas chantée mais jouée au piano. Frédéric Chopin, Maurizio Pollini, j'espère que j'ai bien choisi.
Magnifique.
Sous votre contrôle, Marc-Olivier Dupin.
Non,
on vous retrouve la semaine prochaine et en attendant, en podcast sur francemusique.fr. Bonne semaine.
Bonne semaine Saskia.
Un peu de douceur pour accompagner votre café ce matin, berceuse en ré bémol majeur de Frédéric Chopin, interprété par Maurizio Pollini. Et puis pour accueillir notre invité aussi à 8h35 sur France Musique.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Bonjour Sébastien Rivas.
Bonjour Saskia.
Bienvenue dans Musique Matin, quel plaisir de vous accueillir. Ce matin, vous êtes donc co-directeur du GRAM qui organise la Biennale des Musiques Exploratoires, Biennale qui aura lieu du 13 mars au 4 avril à Lyon. De quoi s'agit-il ?
Eh bien, il s'agit d'une large exploration des diverses formes musicales et sonores, des liens de la musique à la littérature, de la musique de création à la danse, à la performance, au théâtre, à la ville, à la démocratie. Il y a un certain nombre de petites choses, deux ou trois choses qu'on sait d'elles. Et c'est du 13 mars au 4 avril à Lyon.
Qu'est-ce que la musique de création ?
Ah, qu'est-ce que la musique de création ? C'est une très très belle question, parce que c'est une question que nous posons aussi à nos publics tous les jours dans la rue avec un micro-trottoir que nous effectuons justement au GRAM en ce moment même. Et nous avons des réponses absolument délicieuses. Mais nous avons essayé d'y répondre, Noémie Boutin et moi-même, dans une interview un petit peu difficile, parce que c'est toujours une question extrêmement délicate. Mais je pense qu'il y a, dans les musiques de création, aujourd'hui en tout cas, une attitude exploratoire qui est celle de ne pas donner un territoire comme étant un territoire circonscrit, mais celui d'aller chercher toujours, ça et là, avec cet esprit qui est celui qu'il faut, je pense, retrouver quand on parle des musiques de création, qui est l'esprit du jeu. Du simple fait de jouer de cette musique et de jouer avec les matériaux anciens, nouveaux, avec les sonorités, avec les formes. Et c'est finalement cette attitude-là qui, à mon sens, anime ces musiques de création ou exploratoire.
Et dans le jeu, il y a une part de hasard aussi.
Bien sûr, je pense bien. Je pense bien que c'est un jeu, le jeu de dés aussi, pourquoi pas. Bien sûr, le hasard. Des fois, le jeu est très, très mathématique. Des fois, le jeu est très, très abstrait. Mais cette cuisine-là, elle a toujours une façon, et c'est ce qu'on a essayé de faire avec cette première édition d'une biennale, de donner plutôt la parole à l'épiphanie de l'écoute qu'à celle de la cuisine interne, qui, parfois, peut être un petit peu cryptique.
Effectivement, nous allons parler ce matin d'un événement créé donc par le GRAM, qui est cette Biennale des Musiques Exploratoires, qui démarra le 13 mars prochain et qui tiendra jusqu'au 4 avril à Lyon. Une biennale qui va proposer un large panorama de la création musicale, aujourd'hui une sorte de laboratoire d'incubation. Le programme est chargé, on va le dire, en tout cas très riche, des concerts, des performances, 17 créations mondiales, 53 compositrices et compositeurs, 200 artistes réunis au cours de cette biennale. Vous êtes vous-même, Sébastien Rivas, compositeur et artiste sonore. Comment est-ce que vous avez fait cette sélection ?
Eh bien, tout simplement, en partant de cette idée qu'il fallait rester peut-être un peu humble sur cette question de qu'est-ce que la création ? Nous avons du coup, avec Anouk Avis, eu cette idée de procéder à une enquête de l'écoute et d'inviter les gens à activer leur écoute. Pour cela, nous avons fait appel, bien sûr, à un artiste d'une autre discipline, sans mettre à l'honneur un compositeur pour la première fois. Et nous avons essayé de sous-titrer cette biennale « Deux ou trois choses que je sais d'elle ».
Ça, c'est la thématique.
Exactement. C'est-à-dire, finalement, ces musiques, qu'est-ce qu'on en sait ? Qu'est-ce qui nous rebute ou qu'est-ce qui nous plaît ? Finalement, la musique ne nous laisse-t-elle pas elle-même deux ou trois sensation à la fin, comme une histoire d'amour, comme beaucoup de choses dans la vie qui au final vous laissent à peine deux ou trois petites certitudes sur la vie, sur l'écoute, sur l'autre. Finalement, c'est ça, dans cette humilité qui nous a permis d'être très éclectique et de procéder à une sorte d'enquête de l'écoute qui commence par le répertoire, d'où notre installation à l'Auditorium, et qui finit...
Auditorium de Lyon.
Ouais, à l'Auditorium de Lyon, avec l'Orchestre National de Lyon, avec un accueil vraiment auquel je tiens à remercier encore une fois Ronald Vermeulen, Aline Samjiao, Emmanuel Durand de l'Auditorium et de l'Orchestre de Lyon pour leur accueil, pour ce grand week-end d'ouverture dans lequel on installera aussi une bulle sur le parvis où il y aura énormément d'activités gratuites, d'ateliers, d'écoute, de siestes sonores à destination des plus petits petits et des plus grands aussi. Et donc, nous commençons justement par ce lien au répertoire, parce que c'est une des deux ou trois choses qu'on sait de ces musiques, qu'elles ont un lien au répertoire et qu'elles ont pour vocation de créer un répertoire qui est celui de demain. Et petit à petit, nous nous éloignons de plus en plus de ce lieu de répertoire qu'est aussi l'auditorium, pour finir au sucre, aux subsistances à Lyon, dans des formes beaucoup plus transdisciplinaires qui évoquent un peu les liens entre la musique et la danse et les arts plastiques et la performance.
Sébastien Rivas, vous êtes donc co-directeur du GRAM à l'origine de cette Biennale des musiques exploratoires que nous découvrons ce matin. Biennale qui se tiendra à partir du 13 mars à Lyon, dans plusieurs lieux. Vous évoquiez l'auditorium de Lyon, le Sucre, également le Conservatoire de Lyon, la Bourse du Travail de Saint-Étienne. Il y a énormément de lieux qui participent à l'événement. À qui s'adresse exactement ce festival, Sébastien Rivas, ou peut-être plus exactement du point de vue de la pédagogie du jeune public? Qu'est-ce qui sera proposé?
Ah, et bien effectivement, ce festival a pour vocation de s'adresser à tout le monde. Et c'est pour cela qu'on a beaucoup travaillé à GRAM depuis quelques années sur la transmission et la pédagogie. Et nous allons effectivement, dans cette bulle, aussi dans l'espace de médiation de l'auditorium, proposer un certain nombre de formes, comme des ateliers sonores faits avec qui s'appellent Veggie Orchestra, où des enfants pourront, avec des légumes et des végétaux qu'ils câbleront avec des petits circuits analogiques, créer des synthétiseurs tactiles avec lesquels ils peuvent jouer en touchant ces légumes, en faisant des circuits avec eux. On va aussi proposer des siestes sonores qui auront lieu dans cette bulle, avec un répertoire de beaucoup centré sur, pour le coup, avec Fabrice Junger, sur des femmes compositrices qui ont beaucoup écrit pour flûte et électronique, dont Doina Rotaru, une compositrice que j'aime particulièrement, Elsa Biston aussi. Nous allons proposer des ateliers de yoga et de pilates en musique dans cette bulle. Et toutes ces actions, qui sont des actions pédagogiques, de médiation, de transmission, sont pour nous très importantes pour inviter et pour faire en sorte que la musique de création soit une musique inclusive.
Et créer le public de demain aussi.
Et créer le public de demain, ce qui est cet éveil, encore une fois, de notre auteur en résidence, on va dire, pour cette biennale, notre artiste invité Yannick Hennel. Écrivain, romancier, prix Médicis, qui vient de publier un livre sur le Caravage et qui est un grand amateur de musique, qui a aussi écrit le livret d'un monodrame, le Papillon Noir, avec Yann Robin, qui sera donné à voir au Théâtre de la Renaissance.
Ce sera le 21 mars prochain.
Exactement. Et donc, qui lui-même invite à cette épiphanie, justement, avec un discours très sensible, très poétique. Nos ateliers de transmission et notre philosophie est aussi celle-là, celle d'éveiller l'écoute pour créer, justement, le public de demain.
Et Yannick Hennel qui a écrit d'ailleurs aussi un texte de présentation du programme de cette biennale riche en événements, je le disais, un texte vraiment magnifique à découvrir donc sur le site du festival. Évidemment, parlons de ces artistes invités, autres musiciens peut-être. Évidemment, je pense au Quatuor Bella, Noémie Boutin que vous avez déjà cité tout à l'heure, l'ensemble Lynx, l'ensemble Intercontemporain, le Quatuor Tana, l'Orchestre National de Lyon, l'ensemble Ictus, les Métaboles, qui est-ce que j'oublie, Sébastien? S'il y en a tellement.
Oui, peut-être l'ensemble Sound Initiative aussi, qui va présenter le travail d'Alexander Schubert, qui me plaît tellement, avec cette pièce Star Mikiten dans notre week-end de clôture les 3 et 4 avril aux Subsistances. L'ensemble Contrechamp, qui nous fait l'honneur de travailler avec nous sur un projet assez fou. J'aime à dire ça parce que c'est une commande. Ce sont autour des musiques visuelles, pour ainsi dire. Ce programme s'appelle ne fermait pas les yeux, avec des pièces qui déjà, moi, me tenaient beaucoup à cœur, dont des pièces de Francesco Filidei, I funerali dell'anarchico Serantini, Simon Lefleur, un compositeur scandinave, avec une pièce qui s'appelle Bi, avec des néons et des câbles jack et des circuitages, une pièce qui en plus a une grande virtuosité d'écriture, et surtout la création de Christine Sun Kim, qui est une artiste new-yorkaise qui a fait sa thèse sur l'écoute, qui est malentendante, pour ainsi dire. Elle n'aime pas se dire sourd-muette. Justement, ça, le titre de sa pièce évoque cette problématique. Elle s'appelle « Deaf but not mute », à savoir « sourd mais pas muet ». Et autour de cette création, il y a une très très belle conférence qu'elle donne sur justement la perception de l'écoute et de la composition musicale par les sourds et les malentendants. Et donc nous ferons aussi justement un atelier autour de ça avec cette communauté qui est très très friande de découvrir ce qu'est l'écoute, ce qu'est la musique, ce qu'est la composition, ce qu'est la création.
Sébastien Rivas, si vous deviez convaincre un auditeur par exemple qui nous écoute ce matin et qui ne sait pas quoi aller voir, qui n'a jamais entendu de musique d'aujourd'hui ou de création, et qui se sent un petit peu perdu, qu'est-ce que vous lui diriez, qu'est-ce que vous lui conseilleriez?
Pour commencer, peut-être je lui conseillerais d'aller voir le concert d'orchestre avec l'Orchestre National de Lyon, qui met en relation le Boléro de Ravel, qui lui sera très familier, avec la création de Lara Morciano et avec une grande pièce orchestrale de Hugues Dufour. Je l'inviterai aussi à voir la relation entre Schubert et D'Adamo. Et après, je l'inviterai vraiment à buller dans notre bulle autour d'ateliers et d'expériences peut-être un petit peu plus hors de format.
Rendez-vous donc à partir du 13 mars jusqu'au 4 avril à Lyon pour cette Biennale des musiques exploratoires. À découvrir donc un site pour toute cette programmation, pour prendre vos places et pour trouver toutes les informations, www.gram.fr, les liens sur la page de Musique Matin, bien sûr, sur francemusique.fr. Merci beaucoup Sébastien Rivas venu nous voir et puis bonne biennale.
Merci beaucoup, encore merci pour cette invitation et j'espère que vous serez nombreux à venir nous voir.
On l'espère aussi. Berlin Toketa, Raphaël Cendo ici pour illustrer cet entretien avec Sébastien Rivas à l'occasion de la Biennale que nous vous présentions ce matin, Biennale des musiques exploratoires de Lyon.
Et les dernières mesures du quintet en ut majeur de Franz Schubert, quintet qui sera présenté en miroir de l'œuvre sur vestige du franco-argentin Daniel D'Adamo par le quatuor Bella et la violoncelliste Noémie Boutin. Ce sera l'ouverture de cette biennale des musiques exploratoires de Lyon à l'auditorium de l'Orchestre National de Lyon le 13 mars prochain à 20h. Et puis on continuera à parler de ce festival puisque Yannick Enel, l'écrivain et artiste invité de cette édition, sera l'invité d'Elsa Boublid. Ce sera le 15 mars prochain à 11h sur France Musique.
Le reste, sur le plateau. Allons-y. Effet 203, top. Entrée du chef.
Et c'est l'heure de la chronique de Roselyne Bachelot. Bonjour Roselyne.
Bonjour Saskia.
Et Roselyne, vous emmenez ce matin nos amateurs de bel canto loin de leur zone de confort.
Ah oui, Saskia, si la semaine dernière, en introduisant ma chronique avec le prélude de Parsifal, j'avais joué la sécurité, il n'en est pas de même avec Einstein on the Beach de Philip Glass, une des œuvres majeures de l'opéra du XXe siècle. Ce soir, Judith Chen, dans Samedi à l'opéra, nous fera entendre cette œuvre déroutante. Bon, soyons clairs. Si vous décidez de faire découvrir l'art lyrique à votre tata Odette et à votre tonton Gaston, je ne vous conseille pas de démarrer par Philip Glass. Gaston risquerait de tuer quelqu'un à la sortie du concert. Mais si, délaissant vos douces habitudes qui ne vous font jurer que par Rigoletto ou Carmen, eh bien vous vous laissez aller, vous allez découvrir un opéra hypnotique et vous serez emporté. Un mot d'abord sur Philip Glass. Ce monstre sacré de la musique contemporaine est né à Baltimore en 1937. Il a reçu une solide formation musicale classique tout en poursuivant des études de mathématiques et de philosophie à l'université de Chicago. Il rejoint la prestigieuse Juilliard School de New York où, après la flûte, son instrument de prédilection deviendra le piano. Il est à noter que les artistes français ont une profonde influence sur lui. Il a suivi les cours de Darius Milhaud, étudié avec Nadia Boulanger au célèbre conservatoire américain de Fontainebleau. Il est aussi fasciné par le travail de Jean-Louis Barrault au Théâtre de l'Odéon et par la nouvelle vague du cinéma français, Jean-Luc Godard, François Truffaut. C'est un élément fondamental pour comprendre le travail de Philip Glass que d'avoir en tête qu'il est autant un homme de théâtre qu'un compositeur et que ses liens avec les metteurs en scène expérimentaux et avant-gardistes structurent sa démarche créatrice, mais tout autant des plasticiens, des écrivains, des peintres. Il se définit comme un artiste juif, taoïste, hindou, toltèque, bouddhiste. Bon, pas simple vraiment. Mais revenons à la musique. Arrivé à la trentaine, Philip Glass va quitter la composition classique dans le style de Milhaud ou Barber et va créer, aux côtés de Steve Reich et d'autres, cette école de la musique répétitive ou minimaliste. Ce sont ses compositions lyriques qui vont lui assurer la célébrité et la création de son premier opéra, Einstein on the Beach, au Festival d'Avignon, va sonner comme un coup de tonnerre le 25 juillet 1976. Né de sa rencontre avec le metteur en scène Bob Wilson, cet opus fait partie d'une trilogie avec Satya Graha et Akhenaten. On écoute. Einstein on the Beach est donc consacré à Einstein, mais sans que cela raconte une histoire. Vous y trouverez des textes notés de chiffres en ordre algébrique, de 1 à 8, de 1 à 4, de la gamme de Do majeur en français, comme dans l'extrait qu'on vient d'entendre, des parties chorégraphiques, mais aussi des textes non notés, comme ceux écrits par un jeune autiste, Christopher Knowles, dont s'était occupé Bob Wilson. L'œuvre est structurée en 9 scènes et 4 actes, chaque acte étant séparé par un interlude baptisé knee-play, jeu de genoux, pour signifier qu'il s'agit d'une articulation. Hartung ! L'œuvre originale dure 5 heures, mais Robert Wilson a voulu que les spectateurs puissent rentrer et sortir à leur guise. Donc pas de problème ce soir, vous pourrez aller boire un verre dans votre cuisine ou écouter un bulletin d'infos, mais vous reviendrez forcément sur la plage avec Einstein, tellement l'œuvre est fascinante. Judith Chen nous propose l'interprétation donnée à Strasbourg en septembre dernier par l'ensemble Ictus, le Collégium Vocal et de Gand et Suzanne Vega en narratrice dans le cadre du festival Musica. Et on se quitte après le niplet qui introduisait le 3, puis le 4, et bien sur le 5, c'est le dernier, on l'écoute.
Merci beaucoup Roselyne.
Merci Saskia.
Pour cette chronique qu'on réécoute sur francemusique.fr. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Einstein on the Beach de Philippe Glass à découvrir donc dès 20h sur France Musique avec Judith Chen, bien sûr, pour votre soirée opéra. Il est 8h57, il me reste une poignée de secondes pour vous parler du concours. Aujourd'hui, je vous offrais le nouveau disque du violoncelliste Victor-Julien Laferrière, paru chez Alpha. Il fallait deviner le nom du compositeur de la sonate que nous écoutions juste avant 8h. Il s'agissait de Sergueï Rachmaninov, bien sûr. Les gagnants seront recontactés par courriel très prochainement. Merci à Marie Ferdinand, à Laurent Lefrançois, Olivier Dupré, José Bernès et Emmanuel Rose. Et merci à vous, bien sûr, de nous être fidèles chaque samedi matin. Je vous souhaite un somptueux week-end et je vous retrouve avec un immense plaisir dès samedi prochain sur France Musique. Très belle journée.
À réécouter sur francemusique.fr.